Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et dans un instant, Stéphane Boutsog va nous dévoiler les noms des 8 longs-métrages qui seront en compétition au prochain Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. À suivre aussi une rencontre événement le 11 décembre prochain. Le musée du Louvre inaugurera une exposition consacrée à Pierre Soulages à quelques jours des 100 ans de cet artiste considéré aujourd'hui comme le plus important peintre français au monde. Monique Younes a pu le rencontrer longuement dans son atelier chez lui à 7 dans le département de l'Hérault. Enfin, au menu de notre soirée télévisée, pas moins de 9 téléfilms de Noël. 9 téléfilms de Noël, Isabelle Morini-Bosque les passera en revue.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Plus que ça. Dans un mois et demi, l'Alpe d'Huez accueillera la 23e édition du Festival international du film de comédie. La neige est en train d'arriver, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Ce sera le premier événement incontournable de l'année cinéma 2020 dont RTL est une nouvelle fois partenaire. Bonjour Stéphane Boutsog.
Bonjour à tous.
Vous nous révélez ce matin l'essentiel de la compétition à venir.
Oui, avec une affiche des plus prometteuses et un travail qui sur le papier s'annonce compliqué pour José Garcia, le président du jury. Sont donc attendus au pied des pistes Michel Larocque, réalisatrice et actrice de son deuxième film qui s'appelle Chacun chez soi, comédie sur le couple et la famille.
En fait, c'est l'histoire d'un couple, donc Stéphane De Groot et moi. C'était un hyperactif. Au moment où tout d'un coup il a vendu tout, et qu'il a fait des affaires et qu'il veut qu'on parte en voyage, il a une petite déprime et il découvre une passion pour les bonsaïs. Il ne veut pas partir en voyage parce qu'il faut qu'il trouve quelqu'un pour bien les arroser. Et à ce moment-là, notre fille aînée, qui est avec un petit ami, il ne veut pas lui dire qu'il a perdu son boulot parce qu'il ne veut pas la déstabiliser, elle va soutenir sa thèse, et ils viennent vivre chez nous.
Chacun chez soi. De Michel Larocque sortira en avril prochain et sera donc en compétition à l'Alpe d'Huez du 15 au 20 janvier. Autre venue très attendue, Isabelle Huppert, qui fait relativement peu de comédie, on va le dire, et qui est à la tête, qui est tête d'affiche du film La Daronne de Jean-Paul Salomé, aux côtés notamment d'Hippolyte Girardot. Histoire qui raconte comment une interprète judiciaire franco-arabe spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour les stupes va se transformer en chef dealeuse à Belleville. Les premières images et notamment l'affiche sont assez prometteuse.
Mais là, on appelle le pitch, c'est pas mal du tout. Voilà. Après Isabelle Huppert et Michel Larocque, il y a un comédien qui sera doublement à l'honneur au festival.
Michael Youn, présent deux fois en effet. Tout d'abord pour son nouveau film de réalisateur qui s'appelle Divorce Club, dans lequel il imagine comment un homme trompé, quitté par sa femme, cohabite avec un ami, compagnon d'infortune, tous deux créant un club de divorcés pour profiter des plaisirs de la vie dont le mariage, croit-il en tout cas, les avait privés. Arnaud Ducret, François-Xavier de Maison, Caroline Anglade, Audrey Fleureau et Michael Youn donc seront à l'affiche. Michael Youn, que l'on retrouvera aussi dans un autre film de la compète, Lucky, du Belge Olivier von Hofstadt. C'est lui qui avait réalisé Dickeneck il y a quelques années. Polar annoncé comme complètement barré, dans lequel deux potes endettés, Youn et Alban Ivanov, volent un chien de la brigade des stupes et vont devoir s'associer à une policière totalement corrompue, incarnée par Florence Foresti. Là aussi, ça promet.
Bon, alors, ça nous fait déjà du bon à l'Alpe d'Huez. Vous avez d'autres choses à nous annoncer?
Elsa Silberstein sera là pour le film Tout nous sourit, vaudeville sur l'adultère qui ressemble et qui rassemble au même endroit le temps d'un week-end supposé être amoureux, une femme et son mari venus batifoler respectivement avec leur amant et maîtresse. Vincent De Dienne présentera Terrible jungle qu'il imagine poursuivi par sa maman possessive Catherine Deneuve au beau milieu de l'Amazonie où il étudie un peuple oublié. J'ajoute Mella Bédia, la sœur de Ramzy, entourée de son frère mais aussi de Valérie Le Mercier dans le film Forte, où une jeune femme ayant allé au minimum 20 kilos de trop décide de se lancer dans le pole dance, vous savez, discipline assez exigeante qui consiste à danser en s'enroulant autour d'une barre. Oui. Enfin, mine de rien, avec Arnaud Ducret, où comment des chômeurs de longue durée ont l'idée d'ouvrir un parc d'attractions artisanal sur le site d'une ancienne mine de charbon. Ça nous fait donc 8 films en compétition pour l'instant, auxquels s'ajouteront évidemment les événements hors compète. De quoi ravir le président du jury 2020, José Garcia, donc, qui aura enfin l'occasion d'aller au ciné.
Je suis très, très mauvais cordonnier, moi. Je vais très peu au cinéma parce que j'ai pas le temps. Parce que moi, ce que j'aime le plus dans le cinéma, c'est le faire. Je sors un peu de ma zone de confort en allant à l'Alpe d'Huez, mais j'ai envie d'en profiter, si vous voulez, pas avec un œil professionnel, j'ai envie d'en profiter vraiment avec un vrai plaisir, qui est de l'extrême, qui est de la jeunesse, qui est de la fantaisie, qui est de la fête, que vraiment ça soit un lieu où on partage et on soit heureux de partager. Vous savez, souvent dans la comédie, on essaie de donner un côté sérieux quand on fait les choses. Moi, j'ai vraiment envie que ça soit un truc marrant, quoi, qu'on s'amuse, que ça soit festif.
On verra ça. Donc José, mais ça part plutôt mal, plutôt bien. José Garcia, le président du jury de cette 23e édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. On suivra ça en direct, hein, des pistes tous les matins à 9h sur RTL, 15-20 janvier prochain.
Là, ce que vous nous avez annoncé dans tous les sens du terme est carabiné, hein, très très bon sens. On va retrouver Monique Younes dans un instant avec Pierre Soulages qui aura 100 ans le 24 décembre.
RTL, laissez-vous tenter 9h04. L'instant. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Oui, c'est un élément, entre autres, de vérité qu'on peut porter. Quand on voit pour quelle raison les toiles sont...
Bonjour.
Dans 10 jours, c'est la voix de Pierre Soulages qu'on vient d'entendre. Dans 10 jours sera inaugurée l'exposition Soulages, donc, au Musée du Louvre. C'est un événement artistique majeur de cette fin d'année. Pierre Soulages est une des figures majeures de la peinture non figurative. Il est considéré aujourd'hui comme le plus important peintre français vivant au monde.
Exact. Le plus important, donc, le plus cher. Et la semaine dernière, le 27 novembre, sa toile, peinte le 14 mars 1960, qui mesure 2 mètres par 1m62, appartenant à l'ancien directeur du Guggenheim et du MoMA, a été vendu aux enchères chez Tajan pour 9 600 000 euros.
Ah oui.
Un record, un de plus. Alors quand j'ai évoqué avec Pierre Soulages les chiffres mirobolants que font désormais ces toiles en salle de vente, il m'a dit lapidaire.
En 1938, le professeur que j'avais avait amené tous ses élèves, dont moi, voir attentivement la crucifixion. Oui, c'est un élément, entre autres, de vérité qu'on peut porter. Quand on voit pour quelle raison les toiles sont plus chères ou moins chères, c'est souvent pitoyable.
Pierre Soulages va avoir 100 ans le 24 décembre. Et pour marquer ce centenaire, le président du Louvre, Jean-Luc Martinez, lui a proposé, il y a 2 ans, une exposition dans le Salon Carré du Musée du Louvre. Le Salon Carré, c'est un peu le saint des saints du Louvre. C'est là où sont exposées les toiles les plus anciennes du musée, celles d'avant la Renaissance, les Fra Angelico, les Cimabue, les Giotto, qui sont aussi les toiles préférées de Pierre Soulages, celles qu'il a vues la première fois quand il a visité le Louvre.
En 1938, le professeur que j'avais avait amené tous ses élèves, dont moi, voir attentivement la crucifixion du Gréco. Et c'est comme ça que j'ai vu la première fois le Louvre. J'étais d'ailleurs très, non seulement étonné, même très secoué. La connaissance qu'on avait de ces chefs-d'œuvre, c'était avec les pages illustrées du Petit Larousse. Oui, c'est la première fois que je suis allé au Louvre, c'était ça. Je me trouvais plus atteint par les peintres d'avant la Renaissance que ceux qui sont venus après.
Ce qu'on appelle les peintres primitifs.
Oui. Déjà, dès ce moment-là, je m'intéressais aux peintures préhistoriques, à celles qu'on rencontre sur les parois des grottes. C'est quand même aussi intéressant de voir qu'ils sont allés fabriquer du noir alors qu'ils avaient sous la main toutes sortes de matériaux qui leur permettaient de faire des choses beaucoup plus visibles sur les parois des grottes. On voit bien là qu'il ne s'agissait pas de ce que j'appellerais maintenant de la décoration, mais de toute autre chose.
Alors, quelle toile va exposer Pierre Soulages, Monique, une fois que les tableaux du Salon Carré seront répartis en fait dans les autres salles du Louvre, hein ?
Alors, les commissaires de l'exposition Soulages, Alfred Paquement et le regretté Pierre Encrevé, ont choisi avec lui une vingtaine d'œuvres recouvrant toutes les étapes de sa carrière, de 1946 à 2019. Certaines toiles viennent des musées français, comme le musée d'art moderne, le Centre Pompidou, le musée Soulages à Rodez ou le musée Fabre à Montpellier. D'autres proviennent de l'étranger, la National Gallery à Washington, le Guggenheim de New York, le musée Folkwang à Essen en Allemagne, ou des collections particulières. Mais Pierre Soulages a également peint pour l'exposition 4 grandes toiles de 3,90 m par 1,30 m, dont la dernière a été terminée le 18 octobre dernier. Je les ai vues adossées au mur de son atelier quand je suis allée lui rendre visite à Sète, un atelier où règne un ordre absolument monacal.
Ben voilà. Celle-ci, c'est la plus ancienne.
Donc vous continuez à travailler ?
Pourquoi continuer ? Qu'est-ce qu'il y a eu qui m'aurait empêché de continuer ? J'aime peindre, ce qui ne veut pas dire manier le pinceau et la toile, ce qui aussi comporte un élément de concentration, de réflexion. Parce que rien n'a changé. Au Louvre, hein, il y avait un endroit où on dit, tiens là, peut-être auras-tu une idée, il faudrait quelque chose de différent. Et je lui ai instantanément dit, mais voilà, mettons deux verticales à cet endroit-là. Ah, ils sont formidables, ils ont été tout à fait d'accord. Et ça sera deux des verticales que vous voyez là. C'est assez difficile, une toile de 4 mètres de haut.
Et là, vous les travaillez au sol ?
Bien sûr. Et c'est toujours travailler avec la lumière, réfléchie par les états de surface d'une couleur qu'on appelle noire. Une noire absolue, ça n'existe pas. Ou si ça existe, on ne le voit plus.
Alors, Monique, Pierre Soulages n'a pas toujours fait des toiles recouvertes de noir. Hein.
Non, mais il a toujours fait une peinture non figurative. Le noir a envahi progressivement la toile. Pierre Soulages peint depuis le milieu des années 40 et le premier tableau qu'on a appelé Noir-Lumière ou Outre-Noir date de janvier 1979.
Outre-Noir, je l'ai dit, comme on dit Outre-Rhin, pour désigner un autre pays, l'Allemagne, ou Outre-Manche, Outre-Atlantique. Et Outre-Noir, c'est aussi un autre pays que celui du Noir. Et Outre-Noir, c'est ce qui atteint en nous quelque chose que n'atteint pas le Noir tout simple. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis amené à définir une œuvre d'art en disant ces trois termes, la chose qu'elle est, couleur ou forme, qui a été faite par un homme, et c'est aussi quelqu'un qui la regarde, qui y trouve quelque chose qui mobilise en lui des choses essentielles. C'est ça l'outre-noir. Je fais un type de peinture qui est différent de la peinture traditionnelle. La toile que je fais est multiple, par conséquent. Ce qui fait que lorsqu'on bouge, lorsqu'on se déplace, ce n'est pas tout à fait la même toile qu'on voit. Ma peinture laisse beaucoup plus de place à l'imaginaire que les autres. Souvent, on me voit abandonner des toiles, on dit « mais comment, ça c'est très bien ?» Je dis « peut-être, oui, mais pour moi, c'est rien. » Je les mets de côté. Ça surprend parfois.
Ce qui est certain, c'est que les toiles de Pierre Soulages provoquent des choses inattendues chez ceux qui les regardent. Certains parfumeurs ont imaginé des parfums qui évoquent l'outre-noir. Des jeunes femmes se sont fait tatouer des reproductions de toiles de Soulages sur le dos. Des astrophysiciens ont élaboré des théories sur ces toiles par rapport avec le trou noir, sans parler du nombre de chercheurs qui ont fait des thèses sur son travail. Bref, c'est fou le parcours de cet homme qui est né à Rodez le 24 décembre 1919 dans une famille modeste. Sa mère, Aglaé, ne travaillait pas. Son père Amand, c'était carrossier. Il est mort quand il avait 6 ans. Rien ne prédestinait cet enfant de la rue Combarelle à Rodez de devenir le peintre français le plus célèbre. Pierre Soulages aime se souvenir de ses débuts en compagnie de sa femme, Colette. Pour lui, tout a commencé en 1947 à Paris, au Salon des Surindépendants.
Je me rends compte maintenant, mais quand on y réfléchit, c'est assez étonnant. En 46, j'ai présenté une de mes toiles au Salon d'automne, on m'a refusé. Mais c'est la seule chose que j'ai montré. En 47, je suis allé au Surindépendant. Les Surindépendants, pour moi, cette exposition, ça a été capital, au fond. Là, c'est tout s'est déclenché. Dans l'année 48, je suis choisi dans une grande exposition allemande où il y avait un choix des peintres abstraits français, ahurissant. Beaucoup de gens, quelques-uns étaient scandalisés, se demandaient pourquoi j'étais là. Et ça venait de ce qu'un Allemand était venu avec ce que je faisais étonnant.
Pierre, vous dites toujours que la meilleure toile est celle que je suis en train de faire.
Je ne le dis pas, mais je le vis. Quand je fais, je suis attentif à ce qui se produit, et souvent que je ne connais pas.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, à presque 100 ans, il y a une tension qui est différente d'avant ou non ? C'est pareil.
Je n'en sais rien, mais je pense.
100 ans, c'est merveilleux ou c'est tracassant ?
Je croyais que c'est mieux que 102 ou 98.
Alors, à presque 100 ans, Pierre Soulages, lui, en tout cas, peut être fier du musée qui porte son nom à Rodez et qui a complètement changé cette ville de l'Aveyron.
Oui, dans quelques jours, le musée Soulages, inauguré en mai 2014, fêtera son millionième visiteur. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est énorme, une réussite éclatante. Quant aux toiles de Pierre Soulages, elles s'arrachent. C'est chez galeristes, le soir même du vernissage des expositions qu'il lui consacre. Soulages a promené sa carrure d'1m90 partout. Il a été exposé dans tous les grands musées du monde. Il a des souvenirs par milliers à nous faire partager. Écoutez comment s'est passée sa rencontre avec le peintre américain Mark Rothko.
J'avais exposé aux États-Unis plusieurs fois, je n'y suis jamais allé. Nous sommes arrivés en 57 et là, des conservateurs du Museum of Modern Art m'ont invité en me disant je vais vous faire rencontrer des peintres américains. Ils avaient invité une vingtaine d'artistes. Quand ils m'ont vu arriver, 1957, hein. Ils étaient très surpris par ma taille, parce que c'est une époque où ils se voulaient tous puissants, roughs, serrer la main en broyant les valanges. Enfin, ça faisait partie de ce qu'ils pensaient être eux-mêmes. Alors, ils étaient tous là, moins grands que moi, moins costauds. Et alors, il y a eu Rothko, ce moment-là, qui était enfoncé dans un fauteuil, qui m'a dit « Ah, Soulage, j'étais dans vos musées européens, j'ai vu des hommes avec les bras en croix, avec des clous dans leurs mains qui saignent. J'ai vu des hommes percés de flèches qui saignent. J'ai vu des femmes qui portaient des têtes coupées sur des plateaux. L'Europe, un cauchemar. » Et il ajoute, les camps de concentration, les chambres à gaz, les fours crématoires, c'est vous, c'est l'Europe. Tous écoutaient Rothko qui dit ça avec une voix sépulcrale. J'ai répondu que je ne connaissais pas encore les Américains, mais hier, j'étais au Metropolitan et que j'avais vu. Et alors, j'ai répété exactement les mêmes propos de Rothko. Et j'ai dit maintenant, je n'ai pas vu les musées indiens. J'ai dit, ça a tout changé. Rothko, à ce moment-là, s'est élevé de son escapé. Il m'a dit, tu viens demain pour le lunch chez moi. Et je suis venu à Rothko comme ça.
Pierre Soulages, peintre français, l'inventeur de l'outre noire, entre au Louvre de son vivant. Dès le 11 décembre, il aura les honneurs du Salon Carré. Il ira lui-même veiller à l'accrochage cette semaine. Colette, son épouse, sera là à ses côtés pour le seconder et faire en sorte qu'en effet la lumière devienne créatrice, complice du peintre, un grand jeune homme de 100 ans, à la fois grand maître du noir et éternel élève de la lumière.
Merci beaucoup Monique Younes. C'est donc dès le 11 décembre au Musée du Louvre. Dans un instant, la télévision... Isabelle Morini-Bosc.
RTL, laissez-vous tenter, 9h16.
Voilà. RTL Matin,
laissez-vous tenter,
avec Yves Calvi.
La télévision avec Isabelle Morini-Bosc, et ça commence avec les audiences du week-end et Médiamétrie, nous vous écoutons.
Petit point rapide, mais bien sûr, vendredi, si Mask Singer est toujours en tête des audiences sur TF1, l'écart se réduit encore entre la 1 et la 2, 4 500 000 fidèles contre 4 100 000,
ah oui.
Même si 48% des 4-14 ans présents devant le poste sont toujours sur la 1.
Mm-hmm.
Samedi, même topo, TF1 est en tête avec 3 900 000 curieux devant Les Enfoirés jouent le jeu, sorte de grand concours avec Les Enfoirés, mais rien à voir bien sûr avec le score de la retransmission du spectacle des Enfoirés. Qui sera en mars, et donc 700 000 personnes de plus seulement que Mongeville sur la 3. Quant à hier, eh bien hier c'est Vera, les enquêtes de Vera sur la 3 qui sont en tête, 4 030 000 téléspectateurs, devant non pas la 1, mais la 2 et le film tellement proche. Et alors bon score pour Capital et notre ami Julien Courbet, puisqu'il fait il rassemble près de 3 millions de personnes.
Vas-y Juju. Alors disons-le ce soir, alors c'est pas compliqué, vous aimez, mais alors quasiment tout.
Alors rectificatif, j'aime tout, on peut le dire. Hein. Oh, le bazar de la charité, exaltant. De fixe sur la 2, inspiré de l'affaire O.J. Simpson, palpitant.
Ah oui.
Le secret d'histoire consacré sur la 3 à la fille de Louis XI, Anne de France. Passionnant, c'est une femme méconnue méritant justement d'être connue. C'est scandaleux la méconnaissance qu'on a de plein de personnages historiques.
Excusez-moi,
qui sont fascinants.
C'est vrai que je connais pas de choses sur Anne de France.
Ah mais écoute, elle a connu quatre rois, elle est fascinante, presque aussi fascinante qu'Anne de Bretagne qui elle a combattu Louis XI, son père. Mais vous verrez ce soir donc
Stéphane avant de le découvrir ce soir à la télévision.
Voilà.
On n'oublie pas L'Amour dans le Pré, autre chose avant d'en venir à votre gros plan.
Alors un chef-d'œuvre absolu pour moi sur Arte, la chaîne. Film de 1958 avec Tony Curtis et Sidney Poitier. Vous ne l'avez pas vu ?
Non, ça
ah
ben,
il faut absolument que vous regardiez. Ils sont prodigieux en évadés retenus par la même chaîne.
Or, ah, mais
Sidney
oui, bien
Poitier
sûr,
est le noir réservé et Tony Curtis, le blanc raciste. C'est l'un de mes 10 films préférés, vraiment, de tous les temps. Mais pour l'instant, l'urgence est de parler de Noël puisque ça sent le sapin partout.
Bon, c'est très bien. Alors oui, on bûche hein, sur Noël.
Très bien.
Oui, moi, j'ai travaillé ma relance. Ce matin, en comptant déjà le nombre de téléfilms sur ce thème. Alors c'est absolument faramineux, quoi.
Oui, ils sont donc 9 aujourd'hui et ça va s'intensifier à partir de lundi prochain.
Faites-nous rire.
Je cite Noël à Crystal Falls, mm-hmm. L'héritage de Noël, mm-hmm. Noël à Paris, ah. Marions-nous à Noël, L'ange de Noël,
oh.
L'ange gardien de Noël,
ah, mais oui.
Un fiancé loué pour Noël, Coup de foudre pour mon père Noël, l'amour de Un amour de Noël 2, oui. Puis la rediffusion Un amour de Noël 1, sans compter le magazine Mon plus beau Noël avec Valérie Damido sur TF1. Est-ce que ça plaît? Oui.
Oui.
À toutes les couches sociales, oui. Bien sûr, aux étudiants disponibles et aux ménagères voulant s'ébrouer des pesanteurs du quotidien, elles regardent un plaid sur les genoux, mm-hmm. Je le dis parce qu'elles le disent.
Hein. Oui, oui.
Mais on a surpris des cadres supérieurs se laissant aller sur leur lieu de travail devant ces téléfilms paradrap qui respectent, et c'est pour ça qu'on les aime, les codes universels, le bien qui triomphe forcément à la fin. et le retour aux racines. L'un des grands thèmes, c'est l'individu qui a réussi dans la vie mais pas réussi sa vie et qui, retrouvant le patelin de son enfance, eh bien, retrouve aussi les vraies valeurs, comme notre héroïne là qui tombe sur son premier amour en choisissant le sapin.
Tu es revenu passer Noël ici? Je croyais que tes parents avaient déménagé à San Antonio l'année dernière.
Ouais, c'est ça, ouais. En fait, je suis revenu m'installer ici.
T'es revenu vivre à Harmonie?
Ouais, ouais. Ça paraît dingue, je sais.
Mais oui, c'est dingue.
Bon, il faut que j'aille payer mon sapin.
Oh, oui.
Ça me ferait plaisir de te rattraper le temps perdu. Est-ce que t'es libre ce soir pour dîner?
Oui! Enfin, je crois que oui. En même temps, si jamais j'ai un truc de prévu, je
mais,
peux m'arranger.
Oui, mais bien sûr que
guitare,
oui.
On sent le feu de cheminée.
Exactement. Alors, on regarde pas, bien que ce soit prévisible, on regarde parce que c'est prévisible. C'est toujours ça,
ça
de
nous
prix.
Rassure.
Exactement, c'est toujours ça de prix sur l'adversité. L'autre grand thème de ces fictions marronniers, c'est que le Père Noël existe.
Bah oui,
et le
oui.
héros de Gulli le prouve ce soir à 21h dans Un amour de Noël 2, puisque le Père Noël, qui ne grossit que le 25 au soir, est son beau-père.
Nick est vraiment cool. Et par un hasard incroyable, il a rencontré maman le jour de Noël. Il lui a demandé de l'épouser et elle a dit oui. Mais quelque chose d'important est arrivé le jour de Noël. Ce jour-là, Nick est devenu le Père Noël. Vous voyez, le papa de Nick était le Père Noël. Mais il était temps pour lui de prendre sa retraite.
Et alors c'est terrible parce que la mère Noël doit aider le Père Noël, mais ils ne sont pas encore mariés, donc elle ne peut aller en Laponie que s'ils sont mariés. Je vous laisse découvrir la suite à 21h ce soir sur Gulli.
La question de la retraite du Père Noël est importante
oui,
à quelques jours du 5 décembre.
Ah, oui,
je ne vous le fais pas dire. Voilà. Je ne vous le fais pas dire. Alors ces fictions marchent toutes très bien, sauf qu'elles doivent désormais se partager la poule, enfin pardon, la dinde aux œufs d'or.
C'est
M6 qui avait eu l'idée au quotidien de ces fictions il y a 4 ans. Mm-hmm. TF1 ayant compris que là, il y avait vraiment quelque chose à retirer, avait suivi l'année suivante en devançant la date et aujourd'hui, elles sont toutes les deux alignées sur une même date. Elles ont commencé cette année le 5 novembre.
Oh bah oui.
Et la quasi-totalité de ces fictions vient de la même chaîne, Hallmark Channel. Ça vous dit rien, Hallmark?
Si, c'est les cartes, c'est...
Exactement.
Oui, c'est les cartes de Noël.
C'était, c'était d'abord des cartes de vœux, puis ils ont créé la chaîne Hallmark Channel et c'est elle qui fournit quasiment tous les téléfilms de Noël du monde entier, y compris chez nous.
Et alors, ils tournent au même endroit
et c'est, voilà, c'est tout. Voilà.
Ils ont les costumes et tout ce qu'il faut.
On en produit tout de même quelques-uns. Excusez du peu.
S'il vous plaît.
Ne loupez pas ainsi, mi-décembre, sur M6, une spéciale qui met en scène nos Bretons bretonnants, vous savez,
de
en
le famille.
Les Le Kervélec, voilà. Alors, j'ai adoré le prime qui va être diffusé mi-décembre. Alors, on retrouve donc le chef de clan, Le Kervélec, et sa femme, qui doivent recevoir les parents basques de Jean-Pierre, le fiancé de leur fille Marjorie. Et franchement, ils en demandaient pas tant.
Ah tiens, passe-moi la guirlande moche, là.
Oui. Oh, Marjorie, non. Elle est dans tous ses états. Hein. Ce matin, cet après-midi, 3 coups de fil. Oh, papa, hein, surtout, hein, vous parlez pas de politique, hein, ni de religion.
Ni de sexe, je sais, je l'ai eu 3 fois moi aussi. Ça va être formidable ce réveillon. On va parler météo toute la soirée.
Ah non, surtout pas. Mais non, ils ont des vignes. Alors, sujet sensible à météo.
J'aurais le droit d'ouvrir la bouche pour manger.
Voilà. Et tout ce petit monde va s'enguirlander, si j'ose dire. C'est vraiment un petit bijou d'humour. J'ai beaucoup, beaucoup ri. Donc ça, ce sera vers le 15-17 décembre.
Voilà, avec une bonne galette saucisse, fromage râpé.
Si, bon, on n'a pas le même réveillon. Hein.
Non, mais là, on est parti en Bretagne.
Ah, pardon. Oh, ah, en Bretagne, ils mangent des saucisses pour
rire. Non, mais oh, bon, allez.
Bon, allez.
Dans un instant, Julien Courbet, parce qu'on n'en sortira jamais. Il n'y a que lui pour démêler tout ça.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Chaque année, les sauveteurs en mer secourent plus de 35 000 personnes sur les plages comme au large. Ces 8 000 bénévoles sont prêts à mettre leur vie en jeu 24 heures sur 24 pour sauver la vôtre. Pour qu'ils continuent à mener leur mission, ils ont besoin de vous. On a tous 1000 raisons de soutenir les sauveteurs en mer. Aidez-les dès maintenant, faites un don sur jesoutiens.snsm.org.
Bonne journée avec RTL.
On a tellement de choses à se dire.
Michel.
9h30, nous retrouvons tout de suite Julien Courbet et toute son équipe au grand complet.
Et merci et bravo pour cette belle initiative. Hein.
Laquelle?
Ben le 5 décembre, vous savez qu'il y a une grosse grève, très peu de transport, tout le monde se mobilise. Et j'ai appris que vous mettiez votre appartement à disposition des gens qui voudraient venir dormir chez vous
et qui travaillent
dans le quartier.
Donc nous allons donner
l'adresse
mais pas
tout de
tout.
Suite. Il habite 25 boulevard. Vous ne voulez pas accueillir des gens qui ne peuvent pas?
Non. J'ai bien réfléchi à la question et finalement ma réponse est non.
Alors chacun, nous, à notre façon.
Et vous, Julien?
Oui, nous allons faire Hervé Pouchol surtout.
Oui.
Alors, si vous avez 24 ans, un look plutôt sportif, oui. Blonde si possible. Il est prêt à faire du
Hervé covoiturage. Hervé Pouchol va bien vous accueillir.
Toute la journée. Voilà.
Merci. Quel garçon charmant.
Bah, je n'ai qu'une place.
Ah, bien entendu.
Bonne journée.
Et bonne émission.
Et puis je vous rappelle en plus que le 5 décembre, vraiment, nous aurons un partenariat avec nos amis de Blablacar. Alors il s'agit très exactement, voilà, Blabla Lines. Vous pourrez être tenu au courant. Charlotte sera sur place et vous dira tout ce qu'il y a de disponible comme voiture pour pouvoir monter dedans et plus y affiniter. D'accord.
Bon, bien entendu.
Allez, on y va.